de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire. Au Nigeria, Borno tente de se remettre progressivement des années de terreur. Notre dossier sera consacré aux Haratines, les descendants d'esclaves en Mauritanie. Reportage à Gao où la population souffre des délestages. Et rubrique santé, le Libéria est en passe de gagner la bataille contre Ebola. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Nigeria, Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et berceau des islamistes de Boko Haram, se remet progressivement des années de terreur. Toutefois, les nombreux déplacés qui y ont trouvé refuge ne savent où aller. Pour avoir une idée de la situation, Timothée Donangmaï a joint à Maïdougouri un habitant qui nous a souvent parlé au plus fort de la crise et qui, pour des raisons de sécurité, témoigne encore une fois sous anonymat.
Les gens circulent librement. Officiellement, il y a le couvre-feu à partir de 19h. Mais les gens circulent jusqu'à 10h, 10h du soir. Ils sont dans la rue et il n'y a aucun canon. Mais à la périphérie de la ville, tout est calme. Les gens attendent le retour officiel dans leur village, dans leur localité. Et ce qui fait retarder les gens à retourner chez eux, c'est surtout le fait qu'ils n'ont plus rien à la maison. Les villages ont été calcinés. On a mis le feu sur toutes les maisons, toutes les écoles. Et donc, il y a tout à recommencer dans presque tous les villages. Et donc, c'est ça qui fait retarder les gens. Mais si on leur donnait les moyens de rentrer avec les assurances d'abri chez eux, en tout cas, tous les réfugiés que nous avons à Maïdougouri seraient déjà tous partis.
Le gouvernement continue d'annoncer la libération d'anciens otages de Boko Haram. Est-ce que vous en avez vu? Vous en avez des nouvelles?
On annonce des pareilles nouvelles tous les jours. Mais il faut être prudent, parce que ça fait plusieurs années que l'armée nous ment. L'armée est de connivence avec certains politiciens et les commandants des armées. Ils nous mentaient tous les jours, tous les jours. On nous dit toujours qu'on a récupéré telle localité, on a récupéré tel village, on a tué tous les Boko Haram, mais on ne les voit pas, on ne les voit jamais. On n'a jamais capturé, ne serait-ce qu'une personne à qui on peut poser des questions, et qu'on peut voir sur un écran, même en train de passer un jugement public. Donc, on fait que, dans nos têtes, cette histoire, ces agents Boko Haram restent comme des mystérieuses personnes. Et nous, on attend voir des gens, il faut qu'on sache la vérité. Parce que, je ne peux pas vous cacher, cette histoire de Boko Haram va laisser des rancœurs dans les cœurs de beaucoup de gens, surtout ceux qui ont souffert comme nous. On ne va jamais oublier ça parce que nous avons perdu des gens trop chers.
Que pensez-vous de cette offensive de l'armée gouvernementale contre la forêt de Sambisa où se seraient retranchés les insurgés de Boko Haram?
Ils font du théâtre, comme je vous dis. C'est des montages. Ils sont en train de récupérer les choses qu'eux-mêmes leur avaient prêtées. Maintenant que le contrat est résilié, et donc, c'est ce que la population dit, hein. C'est pas ma vision. Mais dans la rue, c'est ce qu'on raconte. Parce que depuis 6 ans, ils ont été incapables de démanteler l'endroit-là. Pourquoi c'est maintenant?
Un habitant de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, au Nigeria, qui a témoigné sous anonymat pour des raisons de sécurité. En Mauritanie, des milliers de personnes marchent traditionnellement chaque année le 29 avril à Nouakchott en réponse à l'appel des initiateurs du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des descendants d'esclaves appelés les Haratines. Le manifeste est un document qui revendique entre autres une discrimination positive en faveur des victimes de l'esclavage. Notre correspondant en Mauritanie, Brahim Dia, était au cœur de cette marche.
Adana, 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 Justice, justice, scandent les manifestants. Presque tous les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont pris part à cette marche. Il y avait aussi des organisations de la société civile et autres militants anti-esclavagistes. Les slogans sur les banderoles, non à l'injustice, nous exigeons la discrimination positive en faveur des Haratines. Pour cette discrimination positive, justement, le manifeste propose, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Fin de citation. Ce quota de 40% est-il juste? Mohamed Valoul Hendeye est coordinateur du manifeste.
Si on applique l'arithmétique pure et dure, les Haratins représentent 57% de la population mauritanienne. Donc si on dit 40%, s'il faut appliquer suivant la proportion dans la population, la part des Haratins ne serait pas de 40%. Mais ça, c'est un chiffre qui a été lancé dans le manifeste et c'est une base de négociation.
Ce chiffre de 57% est une estimation. En Mauritanie, aucune statistique officielle ne révèle le poids démographique des Haratines ou des autres composantes. Parmi les marcheurs, des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, ils ont donné de la voix pour demander la libération de leur président, Biramoul Daoul Abeid, et de ses deux co-détenus, Djibi Sow et Brahim Oul Bilal. Le président de IRA et ses co-détenus purgent une peine de 2 ans de prison pour acte de rébellion non armé. Ils ont été arrêtés pendant une caravane contre l'esclavage foncier. Hamadi Oulehbous, militant de IRA Mauritanie.
Notre présence ici entre exactement dans le cadre de la mobilisation générale qui a été enclenchée depuis le 11 novembre. Le refus des Haratines de toute la manipulation de l'État, que l'État fait depuis le 11 novembre, l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont fortement pris part à cette marche. Idou Moul Mohamed Lemine est du Rassemblement pour la démocratie et l'unité, RDU.
Je suis ici parce que je suis favorable à l'émancipation de toutes les couches défavorisées de mon pays. Je suis favorable à l'égalité absolue entre toutes les composantes du peuple mauritanien. Et je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée au problème des inégalités, quelles qu'elles soient.
Les initiateurs du manifeste ont voulu organiser une marche nationale dépassant les clivages politiques. C'est raté. Aucune formation politique de la majorité soutien du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz n'a pris part à cette marche. Le gouvernement mauritanien a pourtant adopté en Conseil des ministres au début de ce mois un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques esclavagistes. Ce texte passera très prochainement à l'Assemblée nationale. Brahim Dia, à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Et quelques jours après cette marche, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a affirmé que l'esclavage n'existe plus dans son pays, précisant qu'il ne restait que des séquelles. Il a également accusé les ONG de faire de l'esclavage un fonds de commerce. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA et directeur de campagne de Biram Oul Abeid, le militant anti-esclavagiste condamné à 2 ans de prison.
La vision du président Mohamed Oul Abdelaziz est une vision erronée quand il dit qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. C'est une position qui a été toujours défendue par tous les esclavagistes, par tous les morts, voilà, tête desquels se trouve Abdelaziz. Le dispositif que le président Mohamed Abdelaziz est en train de mettre en place prouve une fois encore que l'esclavage existe et existe bien. Si l'esclavage n'existait pas, pourquoi élaborer un projet de loi du gouvernement pour le proposer à l'Assemblée nationale pour voter? Pourquoi il a mis en place une agence de lutte contre l'esclavagisme ou ce qu'elle prétend être l'esclavage? Pourquoi élaborer une feuille de route qui parle de l'esclavage si l'esclavage n'existe pas? Moi, je crois que la masse des Haratines est un désaveu clair aux esclavagistes, au président Abdelaziz. C'est une masse qui consiste à appuyer et à soutenir la position de l'Irak qui a toujours lutté contre l'esclavagisme. Nous, on ne parle pas de ce qu'il y a l'esclavagisme, bel et bien. Abdelaziz aura beau à dire l'esclavagisme existe et tous les cas d'esclavage qui ont été portés devant les juridictions nationales n'ont pas connu de suite puisque les juges, même, c'est des esclavagistes. On va mettre en place une juridiction spécialisée
Et dans l'esclavage aussi, l'esclavage n'existe pas. Quand même, une chose et son contraire, il ne faut pas exister en même temps.
Et qu'en est-il des militants de l'IRA d'ailleurs qui sont condamnés à 2 ans de prison, notamment Biram Ould Abed?
Oui, les militants de l'IRA continuent toujours à croupir injustement dans des prisons. Depuis qu'ils ont été jugés à Rosso, le collectif d'avocats avait introduit un appel qui n'a pas connu de suite jusqu'à présent. Nous sommes toujours en train d'attendre. On ne sait même pas quelle est la juridiction qui est compétente, puisque tout récemment, le bâtonnier qui est le président du collectif a été saisi par le procureur de la République Nansop. Celui-ci a dit que, ou bien ils veulent faire passer le jugement de l'appel au niveau d'Aleg. Or, Aleg, ils sont détenus dans un centre pénitentiaire qui ne dépend pas de la cour d'appel qui est susceptible de les juger, en l'occurrence celle de Nansop. Ça fait partie des entraves depuis le premier jugement qui a consisté à les déférer de Rosso à Aleg dans une autre cour d'appel dont le centre pénitentiaire d'Aleg ne dépend pas.
Mohamed Oul Abdel Aziz vous accuse, vous, les ONG, d'utiliser l'esclavage comme fonds de commerce pour la gloire.
Ça, c'est son point de vue que je considère comme toujours erroné. Je ne parle pas seulement de la mousse. Le monde entier connaît qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. Le monde entier est en train de comprendre la justesse du combat de l'IRA et les organisations qui œuvrent pour la lutte de l'esclavagisme. Ça, c'est son point de vue. En étant esclavagiste, il ne pourra dire que cela. Nous le dérangeons à travers cette lutte contre l'esclavagisme, mais sur le plan politique également. Biram, qui était candidat aux élections présidentielles, a bien dérangé le président Abdelaziz. C'est, entre autres, une des raisons pour laquelle Biram et ses camarades, Ibrahim et Djibisson, qui se retrouvent aujourd'hui tous vivant en prison. Ce n'est pas quelque chose de justifié. Ça n'a pas de sens. Combien de cas d'esclavagisme il a porté devant les juridictions nationales? Aucun cas n'a connu un jour. Aucun, je dis.
Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA en Mauritanie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, la ville de Gao, sur le fleuve Niger, subit des délestages régulièrement. La nouvelle centrale thermique, installée il y a moins d'une année, ne fonctionne plus alors que les températures avoisinent les 50 degrés à l'ombre. Les habitants de Gao souffrent énormément de cette situation. Reportage de notre correspondant Boubacar Touré.
Comment apprécie-t-on la situation dans une zone où le mercure affiche très souvent 50 degrés à l'ombre, alors que la société Énergie de Gao a été dotée d'une nouvelle centrale thermique il y a moins de un an?
Voilà, ça fait 3 ou 4 jours comme ça qu'on ne recevait pas de courant et qu'on sort. Donc vraiment, nous, on souhaite que vraiment, s'ils peuvent faire quelque chose de mieux, vraiment, ça nous arrange beaucoup.
Dans une grande ville quand même, ça dit le courant, l'électricité, c'est une nécessité. À l'heure où nous sommes, toute la population de Gao souffre du manque d'électricité. Surtout à l'approche du mois de Ramadan, donc maintenant, c'est une autre chose, quoi.
Omar Maïga est un ouvrier qui travaille avec le courant. Il a des difficultés énormes pour nourrir sa famille.
Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup. Il y a des courants, il y a quelque chose qu'on mange. Il y a 4 jours, il n'y a pas de courant.
4 jours, tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de travail.
Et comment tu fais pour nourrir ta famille si tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de solution.
Pour mieux comprendre la situation, nous avons approché le directeur de la société Énergie, Daouda Cham. Il nous explique les difficultés auxquelles ils sont confrontés actuellement.
Depuis un certain temps, la continuité des services était assurée par la nouvelle centrale qui a été construite il n'y a pas très longtemps, à la faveur de la reprise. Cette nouvelle centrale, aujourd'hui, on est à une disponibilité de 0 groupe sur 4. Mais les 4 groupes ne sont pas tombés en panne en même temps. Ils n'étaient jamais ensemble disponibles. Il y a un qui partait, l'autre présentait d'autres problèmes. On enlève des pièces d'un groupe pour les mettre sur d'autres.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 101.7 FM à Gao sur la radio Ahadar Koïma. Rubrique santé pour finir l'émission. Le Libéria est en passe d'émerger de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, le pays a élaboré un plan de relance de son économie. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Conscient que le virus Ebola pourrait réapparaître, le gouvernement a mis en place un système de gestion pour faire face à toute urgence, a indiqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie, Axel Adi. Cela inclut la mise en place de l'infrastructure médicale appropriée, le traçage de tous les cas potentiels et la surveillance de la situation aux frontières, a expliqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie. En plus de la nécessité de renforcer son système de santé et de protéger ses citoyens contre une nouvelle épidémie, le Libéria est aussi confronté à l'immense tâche de relance de son économie. Avant que l'Ebola ne réduise tout à néant, le pays projetait un taux de croissance du PIB entre 5,9% et 7%. Avec les ravages de la crise sanitaire, ce taux s'est retrouvé en dessous d'1%. Selon le ministre d'État sans portefeuille Augustine Jarrett, l'Ebola a eu un effet de cascade sur tous les aspects de l'économie nationale, en particulier en ce qui concerne les principales exportations du pays, à savoir le caoutchouc et le minerai de fer. Des compagnies ont fermé, coûtant à des milliers de personnes leurs emplois. Les champs n'ont pas été cultivés, privant des milliers d'agriculteurs de leurs sources de revenus. Le pays doit diversifier son économie, a dit M. Jarrett, ajoutant que le gouvernement entend désormais accorder la priorité au secteur privé. Ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, c'est que la plupart des travailleurs étaient employés dans le secteur public et cela va changer. Nous nous focaliserons sur le secteur privé, les emplois et les investissements du secteur privé et tenterons d'orienter l'économie dans une direction où les acteurs du secteur privé seront les moteurs de la croissance et de la vitalité économique, a déclaré le ministre d'État libérien Augustine Jarrett. Le gouvernement libérien a su travailler avec ardeur à attirer les investissements privés pour aider à reconstruire les infrastructures, notamment à relancer les grands chantiers routiers et autres projets de construction à l'arrêt du fait de l'épidémie d'Ebola. Le secteur agricole qui emploie 70% de la force de travail au Libéria nécessite de grands investissements, estiment les autorités libériennes.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Elvin Sangano. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec la Nigériane Dija et son single Yaro. Bonne soirée et bonne nuit à tous.